Dans la vie, il y a deux possibilités, subir ou diriger sa vie. En écoutant BTLV, vous avez choisi votre camp. Ici, pas de censure, pas de pub. Seulement une autre information que celle délivrée à longueur de journée par l'ensemble des médias. Bob vous dit toute la vérité, tous les soirs, 21h minuit, sur BTLV.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, comme d'habitude sur BTLV, un média unique en son genre, aux quatre coins de la planète. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour avoir un autre regard sur la vie, la mort, la société et l'univers. Dans un instant, c'est Richard Glenn que nous allons retrouver, comme nous le faisons tous les mois, ici sur BTLV. Avant cela, j'aimerais vous rappeler que ce mois d'avril, puisqu'il démarre en trombe, nous amènera le 25 et 26 prochain, les 25 et 26 avril prochain, aux hommes bien-être de Monco. Vous êtes une vingtaine à nous avoir donné votre confiance pour ce week-end bien-être, à la découverte de notre troisième œil et surtout du vôtre. Moi, j'ai fait l'expérience, c'était à Noël. C'est un week-end qui sera également filmé, donc vous pourrez, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir, avoir les images dans la foulée. Voilà, c'est le 25 et 26 avril prochain.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Richard Glenn, bonsoir.
Eh oui, bonsoir Bob.
Comment ça va?
Ça va toujours très bien chez vous aussi?
Oui, très très bien. Tu sais que nous, on est très excités parce qu'il nous reste plus que un mois et un peu plus d'un mois et demi avant de te retrouver pour ce congrès UFO qui s'annonce magnifique, le congrès UFO 501. C'est-à-dire on a upgradé cette année, on est passé de 401 à 501 et d'ores et déjà ici, on commence à en parler puisque nous avons, nous, sur le site mis le slider en homepage et c'est vrai que les gens commencent à nous en parler de plus en plus.
En effet, ici aussi au Québec, les billets même commencent à se vendre pour être en présence dans la salle de l'hôtel Sandman, qui est juste à côté de la station de métro de Longueuil, pour les samedis et dimanches 23 et 24 mai prochains. Donc, comme l'année dernière, le samedi après-midi, samedi en soirée, et le dimanche tout l'après-midi. Et le vendredi qui va précéder cette fin de semaine-là, Bob, on a l'intention d'enregistrer du BTLV, 3 heures ici au Québec.
Oui, oui. Ça va être une très, très belle soirée, une très belle émission. On fera cette émission également à l'intérieur de l'hôtel, hein, c'est ça?
Exactement, au même endroit qu'aura lieu le congrès le lendemain. Donc, ça va réchauffer l'atmosphère, l'ambiance. Mais on réserve les invités ufologiques pour la fin de semaine, alors que le vendredi, ce sera plus des invités scientifiques, ésotériques.
Exactement.
C'est ça. Alors, pour les gens, cette fin de semaine-là, réservez-la dans votre agenda du 23 au 24 mai, le 22 inclusivement, le vendredi soir. Tout ça au même endroit, à l'hôtel. Et vous savez que si vous prenez une chambre dans cet hôtel, vous avez une réduction de $40 par nuit. Par nuit. D'accord. C'est quand même très intéressant, puisque c'est un hôtel plusieurs étoiles. Je pense que c'est un 3 étoiles. Et donc, Bob, t'es avec nous?
Oui.
Avec Mathieu aussi?
Bien sûr. Et peut-être même ma femme qui viendra nous supporter, hein, parce que nous sommes un peu barrés pour elle, tu sais.
On est un petit peu... Non, c'est parce qu'elle veut pas que vous fassiez les 400 coups à deux, vous surveillez.
Oui, c'est ça, exactement. Mais peut-être que... Non, elle viendra peut-être. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a proposé ce week-end. Alors, si son agenda le permet, parce qu'elle travaille également beaucoup, elle se fera une joie de venir te rencontrer.
Ça sera un grand plaisir de la rencontrer. Est-ce que ça va être la première fois qu'elle met les pieds au Québec?
Oui, c'est la première fois. Mais tu sais, moi, comme moi l'année dernière, hein, c'était la première fois que je venais dans votre belle province. Et c'est vrai que moi, j'en ai un souvenir énorme. J'en ai parlé pendant des mois. Et là, c'est passé très vite. Hein. T'as vu cette année comme elle est passée très très vite. Et donc, on se retrouve à l'aube d'un nouveau congrès UFO 501 et une nouvelle fois donc un voyage magnifique qui nous attend au Québec, dans votre beau pays, où l'accueil, j'avais été surpris tellement il a été sympathique. Voilà, on se connaissait pas et on avait la sensation d'être de la même famille depuis longtemps.
Mais remarque qu'on écoute Bob, hein. Ici au Québec, on est nombreux à écouter BTLV, Bob, depuis maintenant plusieurs mois, pour dire des années même. Ouais. Alors, quand on te reçoit à la maison comme ça, tous les jours, quotidiennement, on peut dire que t'es comme membre de la famille ou de la parenté, en tout cas. Hein.
Ouais. Alors, quelles sont les grosses stars que tu nous réserves, et les gros invités que tu nous réserves pour ce congrès UFO 500? Est-ce que t'as déjà des noms à nous donner?
Oui, mais remarque une chose, Bob, c'est que dans les grandes stars que j'ai, je préfère ne pas les révéler maintenant, puisqu'on a eu l'année dernière des problèmes avec certaines personnes qui n'aiment pas le travail qu'on fait,
ouais.
et qui viennent miner la connexion avec certains invités en disant « Ah, vous n'êtes pas pour aller à un congrès ufologique, puis vous allez perdre votre crédibilité, puis c'est ci, puis c'est ça. » Tu sais, tu l'as déjà avoué que le domaine de l'ufologie, c'est peut-être le domaine du panier de crabes.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Tout le monde a sa croyance, tout le monde a sa vérité, et puis tout le monde tire la couverte de son côté. Nous aurons la présence de M. Christian Comtesse.
Ah oui, très très bien.
Fin de semaine, en personne, ici aussi. Le souper ufologique, qui est un des fondateurs, et ici au Québec, Louise Dionne, qui est la fondatrice des presque la même chose, elle a appelé plutôt les soupers expérientiels. Elle voulait déborder simplement du cadre de l'ufologie pour aller au-delà dans la parapsychologie et tout ça. Nous aurons aussi des invités qui sont très importants que on pourra révéler dans les 10 jours ou 15 jours avant le congrès.
D'accord.
En particulier, ce sont des invités américains très importants. On a des invités très connus chez vous qui vont nous rejoindre par Skype. Marc Gray. J'insiste beaucoup sur Yona Vatnek, qui est l'une des organisatrices de notre congrès actuellement, qui connaît à peu près tout le monde dans le domaine ufologique francophone et anglophone. Ouais. Et Yona Vatnek, directrice du groupement Garpin, qui va être avec nous. Je pense que c'est important de le souligner. C'est un congrès qui va se faire en trois temps, on pourrait dire. Le samedi après-midi, c'est plus les nuts and bolts, là, tôt les boulons.
Oui, c'est ça,
Samedi après-midi. Le samedi soir, c'est là que je reçois des gros canons américains, entre autres, qui vont être avec nous. Et on va avancer dans la meilleure compréhension du phénomène extraterrestre qui demeure encore un phénomène. Tu sais que Obama vient de faire une déclaration il y a quelques semaines à la télévision américaine.
Oui, bien sûr.
Tu en as entendu parler?
Oui, bien sûr, On a relayé l'information sur le site,
Ben oui, évidemment. Alors, on voit que ça grouille, ça grenouille tout le temps, le phénomène extraterrestre. Alors, oui, on a des bons invités, des gros noms. Même, on a un très, très gros nom américain qui, justement, nous a demandé de ne pas en parler maintenant parce qu'il devrait participer à des congrès américains d'abord.
Ouais.
Et il va être avec nous pour la première fois.
D'accord, OK.
Parce que, et puis, même chez vous, on a un invité français de la plus haute importance.
D'accord.
Il accepte de nous parrainer, de nous donner le mot de bienvenue pour la fin de semaine.
D'accord. Bon.
Et c'est une autorité dans le domaine de l'ufologie française qui accepte. Alors, je te le dis, c'est des surprises, même pour toi, tu vas être étonné.
Bon, ben génial.
Et le dimanche après-midi, ça se trouve à être retour à plus le domaine des autres dimensions avec Yvan Poirier, des entités des mondes parallèles.
D'accord. OK.
Et tu vois un peu le portrait. Alors, le programme est complètement préparé et sera diffusé graduellement et ça sera disponible autant sur ton site que sur le mien. Et l'endroit du site international qui est facile à retenir, c'est orandia.ca.
Mm-hmm.
orandia.ca. Et vous savez, pour vous, les Français qui ne pouvaient pas vous déplacer, venir au Québec comme Bob et tout son aéropage, là, mais vous pourrez nous suivre en direct parce que tout le congrès, comme l'année dernière, est diffusé simultanément sur Internet en haute définition.
Oui, alors ça, il faut le dire, parce que bon, peut-être que les gens ne l'ont pas vu l'année dernière, mais on est avec de vraies équipes de télé, c'est-à-dire qu'on a la sensation de regarder une émission de télé. Hein. C'est une qualité HD incroyable, le son est magnifique. Et vous êtes tranquillement installé quelque part dans le monde, vous pouvez suivre toutes les conférences du congrès. C'est ça qui est fabuleux.
Et en direct, ou bien, comme celui de l'année dernière, il est encore disponible d'ailleurs pour les gens qui voudraient assister au congrès de l'année dernière intégralement, toujours en allant sur orandia.ca. Et d'ici quelques jours, on va pouvoir mettre en parallèle, toi sur ton site et nous sur notre site, Ésotérisme expérimental, le highlights, comment on dit là,
les meilleurs moments.
Oui, les moments forts, le meilleur moment du congrès de l'année dernière, UFO 401. En 30 minutes, vous aurez l'occasion d'entendre et de voir justement la qualité vidéo et audio, mais aussi la qualité des contenus qu'on a diffusés l'année dernière dans le congrès et qui sera à la portée de tous. Juste question de vous donner le goût de soit d'aller écouter le congrès intégralement de l'année dernière, c'est plusieurs heures, évidemment, et aussi pour vous brancher cette année puis nous suivre en direct avec le décalage horaire de 6 heures. N'oubliez pas, en France, tout se passe 6 heures plus tard qu'au Québec. Quand on commence à 13 heures l'après-midi, pour vous, il est 19 heures le soir.
Ouais, déjà,
Ouais, il y a ça. Et quand on finit le samedi soir ici au Québec à 22 heures, ça veut dire 4 heures du matin le dimanche matin, et mais on reprend seulement 19 heures le dimanche soir pour vous en France. Alors, il y a quand même moyen, soit de profiter de cette longue fin de semaine pour se dire, bon, ben on voyage sans voyager, sans le décalage horaire réellement de l'avion, mais quand même, on est obligé, on est sur une planète ronde qui tourne et qui nous étourdit parfois.
Bon.
Alors voilà, alors c'est avec grand plaisir qu'on va avoir une autre belle fin de semaine avec Bob, parce que Bob, t'es d'un dynamisme extraordinaire, t'as une recette magique, je sais pas, t'es tombé dans la potion magique des Gaulois.
Oui, c'est ça, tu sais, on est le pays d'Astérix et Obélix, hein, donc fatalement.
Exactement, et t'amènes ton Obélix... Non, je peux pas dire ça. Je sais qu'il a pas entendu.
Ah si, Mathieu, tu verrais les yeux qu'il a fait.
J'ai un peu choqué, là.
Oh non, Mathieu, écoute, on t'adore. Tu le savais, on a très, très hâte de te voir aussi.
Moi aussi.
Bon, bravo, hein, c'est ça. Eh ben, bravo. Alors, bon. C'est ça. Donc, c'est pour dans un mois et demi. Ça vient vite, là. C'est le 23 et le 24 mai.
Exactement.
Alors, procurez-vous les billets pour les gens du Québec. C'est le temps. Alors, en allant toujours sur orandia.ca.
Magnifique.
Et voilà.
Bon, ben, en tout cas, voilà pour ce congrès UFO 501.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.
Alors mon Richard, ce soir, on va évoquer, comme nous le faisons une fois par mois, cette ufologie, ce mystère, cet inexpliqué qui t'anime. Hein, et on va évoquer ce soir l'anacyclose. Alors je ne savais pas ce qu'était l'anacyclose, Richard.
Oui, l'anacyclose est un terme qui vient de la Grèce antique et qui a été repris par Nicolas Machiavel. Ça te dit quelque chose?
Oh oui, quand même, oui. Oui, oui, quand même, oui.
Bon, c'est ça. Hein. Alors, c'était un grand politicien. C'était quelqu'un qui était rusé, qui savait comment manipuler les riches, les nantis, le pouvoir,
ouais.
Et être aimé du petit peuple.
Mmh.
Il avait toutes sortes de manières. Ça vient de lui, la fameuse expression « la fin justifie les moyens ».
Oui, d'accord.
Mmh. Autrement dit, fais les pires coups qu'il y a. Fais tomber les deux tours du World Trade Center,
ouais.
Va te servir pour pouvoir après ça attaquer le Moyen-Orient, Saddam Hussein et tout le reste.
D'accord, non? D'accord.
Comme ils ont fait la même chose dans le golfe du Tonkin avant la guerre du Vietnam, il a fallu qu'ils disent que les Viet Cong avaient attaqué un croiseur, un bateau de guerre américain qui était en rade, et puis c'est faux. Comme ils ont fait la même chose concernant Cuba, en faisant croire qu'il y avait un bateau là, qui avait été attaqué par les Cubains.
Mm.
Alors, la fin justifie les moyens. Ça fait partie de ce que les politiciens apprennent en se préparant pour devenir politologue ou politicien, qu'on appelle l'Institut M. M pour Machiavel, finalement.
D'accord.
Alors, il nous dit, sa règle de conduite, c'est avoir la force du lion et la ruse du renard.
Mm-hmm. D'accord.
Le meilleur moyen de contrôler une révolution, c'est de la faire soi-même.
Bien sûr.
Alors, on comprend la Révolution française avec la franc-maçonnerie qui est derrière.
Ouais.
Et ils ont jeté l'huile sur le feu pour que le peuple exige plus que seulement du pain et des jeux. Mais Alors, on voit que il y a quelque chose que Machiavel est allé chercher dans l'anacyclose, une théorie qui vient de Polybe, du 2e siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère. Polybe avait expliqué l'anacyclose. Cyclose, on comprend tout de suite, qu'il s'agit de cycle. Donc, tout revient. Quand on dit plus ça change, plus c'est pareil. En effet, on pourrait croire qu'à l'origine de tous les pouvoirs politiques, le plus simple, le plus à la portée de tous, c'est ce qu'on appelle la monarchie.
Ouais, ouais.
Un roi, c'est un monarque. Et le monarque, quand il devient très intransigeant, qu'il devient trop autoritaire, il tombe dans le principe de la tyrannie.
Mmh,
Donc, de la monarchie 1, monarchie, alors que la démocratie, la monarchie, c'est 1, alors que la démocratie, ce sera le démos, ça veut dire le monde, le peuple. Alors, de la monarchie qui se pervertit, devient la tyrannie. Le tyran, c'est celui qui se prend pour le monarque, mais il n'est pas accueilli par le peuple. Alors qu'un monarque, à l'origine, le fait d'être monarque, que ce soit les pharaons d'Égypte ou que ce soit les rois même de France, les rois ont toujours besoin de protéger pour leurs descendants, pour leurs fils, leurs enfants, qui vont hériter du trône, un peuple qui va continuer à les aimer.
Mm-hmm.
C'est sûr que s'il devient un tyran, le peuple voudra s'en débarrasser, alors plus le peuple voudra s'en débarrasser, plus le tyran devra être tyrannique. Et moins il va se faire aimer. Et finalement, ce qui va arriver, c'est que, comme c'est arrivé pour la Rome antique, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il s'est créé dans les couloirs, dans les corridors, des palais royaux, les gens se mettent ensemble pour...
Des complots, des petites choses comme ça, des groupuscules, quoi.
Oui, c'est ça. Et des gens qui fomentent la trahison.
Bien sûr.
Et à un moment ou l'autre, vont l'éliminer. Alors, ouais. Les coups de couteau dans le... où on le tue, on le tire, ou on l'empoisonne. Mmh. Et on se débarrasse du tyran. Et en général, c'est un petit groupe d'aristocrates. Alors, c'est devenu de la monarchie passée à la tyrannie, et on élimine le tyran, et là, ça redevient un pouvoir positif, agréable à tous, qu'on va appeler l'aristocratie.
D'accord.
C'est-à-dire des gens qui ont tout intérêt à protéger leurs biens, leurs intérêts personnels et autant que ceux du peuple pour garder le pouvoir. Alors donc pendant un certain temps, on vit encore un âge d'or. Alors on commence à comprendre là, le fameux anacyclose.
Mm-hmm.
On passe de un à l'autre, de quelque chose de positif à quelque chose de négatif. Aristocratie va devenir graduellement une oligarchie. Qu'est-ce que l'oligarchie? C'est les oligarques. C'est ceux qui ont la plutocratie, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont... Alors, à partir de ce moment-là, un peu comme on connaît maintenant, on voit bien qu'il y a des entreprises qui sont pas des personnes physiques, mais des personnes morales qui dominent dans notre système. On a un système qui se dit démocratique. Ben c'est ça, justement. L'aristocratie devient une oligarchie, c'est-à-dire un petit groupe de... un peu comme en Russie. Un petit groupe de gens bien nantis qui ont les mains partout, qui ont le pouvoir dans toutes les grosses organisations, les grosses entreprises, et à un moment donné, le peuple va se soulever et va éliminer l'oligarchie. Comme là, ça sera un mouvement populaire du peuple. Qu'est-ce qui va résulter? Quelque chose de positif, encore une fois, la démocratie.
Bien sûr. Ouais.
Alors, on voit très bien qu'on passe de quelque chose de positif, monarchie, ça se pervertit, ça devient tyrannie, on la détruit, on se révolte. Là, c'est l'aristocratie qui élimine le tyran, ça devient l'oligarchie qui se pervertit. Donc, et après, on arrive avec la démocratie, le peuple. Et le peuple, comme dans tout le reste, va aussi se pervertir. Il y a des gens qui vont profiter de contacts, puis des réseaux qui vont se créer entre eux autres, des amis. Tu sais, alors les sociétés secrètes, la petite tape dans le dos, tu sais, « scratch my back, I scratch yours » en anglais, mais en français, c'est « flat ». OK, frappe-moi le dos, je te gratterai le tien, tu sais. Non, mais tu sais, il y a une zone dans le dos qu'on peut jamais aller se gratter.
Bien
c'est
sûr.
Bien difficile, là. Ça nous prend un grattoir. Bon, ben, c'est bien utile d'avoir des amis qui, quand t'as mal dans le dos à quelque part, tu demandes à ton ami, viens donc me gratter. Ouais, OK. Alors, c'est cette façon-là que nous, on appelle ça ici le réseau des enveloppes brunes.
Ouais.
Les gens qui se passent, là, l'argent par en dessous de la table. Alors donc, la démocratie se pervertit. Et ça deviendra ce qu'on appelle de l'oclocratie.
D'accord.
Alors, on voit bien que dans tous ces phénomènes d'autorité, de contrôle d'une population, alors j'allais maintenant déborder sur le phénomène extraterrestre, y a-t-il eu la même situation à travers l'histoire de l'humanité terrestre? L'intervention d'êtres extraterrestres, on appellera les initiateurs des temps primordiaux, et qui sont venus pour nous enseigner l'agriculture, la peinture, l'architecture, peut-être au tout début, le contrôle du feu et tout, et qu'agréablement, il y a eu des gens qui ont profité de ces connaissances-là pour dominer sur les autres. D'abord, le contrôle du feu, la guerre du feu, tu te souviens du film?
Bien sûr, oui, Jean-Jacques Hano.
Exactement. Quelle culture, Bob. Je t'écoute avec tes invités, toujours. Il est toujours sur la coche, oui. Alors, oui. Et maintenant, on voudrait que les extraterrestres nous donnent gratuitement les énergies libres, les énergies qu'on pourrait utiliser comme l'antigravitation, des systèmes qui sont pas des vieux systèmes comme le pétrole, qui sont des énergies en voie de disparition d'ailleurs et qui polluent énormément. Pourquoi pas avoir des énergies pures, des énergies propres et gratuites à tous? Mais si c'était le don de ces extraterrestres-là à notre société, est-ce qu'on risquerait pas que ce soit encore une élite qui profite de ça pour dominer encore plus fortement sur le peuple? On est pris avec cette prise de conscience que le fameux principe de la directive première, qu'on appelait la directive de non-ingérence. Mais non-ingérence ne veut pas nécessairement dire non-intervention.
Bien sûr.
Il y a une différence entre non-ingérence et non-intervention. C'est-à-dire que, d'après la théorie des Star Trek en a fait beaucoup allusion, c'est-à-dire la fédération des mondes habités dans l'univers, s'il y a d'autres planètes habitées comme la Terre et qui ont développé une technologie, une science, ben c'est sûr que ils ont aussi suivi à peu près le même chemin que nous sommes en train de suivre, peut-être quelques milliers d'années de retard sur eux. Ben, on arrive à un moment donné aux Nations Unies ici sur Terre, qui a suivi la Société des Nations sur les deux guerres mondiales. Les Nations Unies, graduellement, vont déménager de New York, parce que on voit bien que ça c'est comme contrôlé par les Américains. Mais on voit bien qu'actuellement, qui va de plus en plus? Pirelli est en train de passer dans les mains des Chinois. Là.
Ouais.
Fait qu'on voit bien que toujours go west, l'expression go west, hein, le tout a débuté, disons, à Sumer, là. En Mésopotamie, là. Le Tigre, l'Euphrate, le Moyen-Orient, go west, à l'Autriche, en Égypte, go west, la Grèce, go west, l'Italie, Rome, go west, la France, go west, l'Espagne, qui a réussi à aboutir sur les terres avec Christophe Colomb, qui arrivait du Portugal. Bon, alors on voit toujours go west, arrive en Amérique. L'Amérique a commencé par New York, l'est des États-Unis, puis graduellement, ils ont atteint l'ouest américain avec la Californie. Go west, on s'en va au Japon. Là, ça a été après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon, avec ses fabrications manufacturées qui ont envahi le monde. Et là, maintenant, c'est la Chine, la Corée du Sud, la Chine. Go west. Alors, c'est comme ça. On dirait que la Terre qui tourne amène un peu, comme l'anticyclone dont je parlais au début, un mouvement toujours en rotation. On passe d'un matin, il y eut un matin, il y eut un soir. Il y eut un autre matin, il y eut un autre soir. Parce que tout tourne et on étourdit tout le monde avec ça aussi, hein, un peu. Alors, le congrès UFO 501, on va essayer d'arrêter un peu la boule de tournée en se disant, whoop, minute, qu'est-ce qu'on fait devant le phénomène extraterrestre? Les autorités, le peuple réclament qu'on nous donne la vérité sur la réalité extraterrestre. Ces êtres-là pensent-ils comme nous? Sont-ils au même niveau de conscience que nous? On sait qu'un enfant qui grandit bébé, il marche à quatre pattes, il met tout dans sa bouche, et graduellement, il va en parler quand on prend le petit bonhomme Pierre, il ne dira pas « je veux manger » ou « je veux avoir la balle ». Il va dire « Pierre veut la balle ».
Bien sûr.
Pierre
bien sûr.
Veut manger. Parce qu'il n'a pas encore intégré ce qu'il est. Il se voit comme extérieur à lui-même. Et graduellement, il va réaliser qu'il est une entité propre, totale. Il va grandir. Bon, alors, l'évolution de la psychologie d'un enfant, l'évolution de la psychologie d'une planète, c'est à peu près la même chose. Il y a des étapes. Et ces êtres-là, quand on les supplie, quand on les prie, quand certains pensent que ce sont des anges ou des envoyés du ciel, de Dieu, on imagine qu'ils ont notre psychologie, où il faudrait qu'on se mette à leur place, qu'on regarde de leur point de vue.
Ouais.
Ils nous regardent à chaque fois qu'on a eu une invention qu'on a développée, ça a presque toujours servi d'abord à l'armée.
Oui, c'est ça. Toujours pas, et pas pour le meilleur, hein. C'est-à-dire que toujours pour la guerre.
Ben oui. Et on remarque des gens qui vivent dans des contrées simples, qui n'ont pas beaucoup de développement technologique, ils semblent très bien se débrouiller malgré tout, tant qu'ils n'ont pas, malheureusement, la comparaison avec des gens qui profitent d'un moteur avec une hélice pour aller sur l'eau, qu'on appelle un moteur hors-bord ou quelque chose sur l'Amazon. Les gens qui vivent en Amazonie, ils ramaient, ils se laissaient porter par le courant. Alors que maintenant, avec la propulsion des moteurs à gaz, ils ont besoin de la gasoline, ils ont besoin de mécaniciens pour réparer leur moteur, ils ont besoin de fournir quelque chose en bien pour avoir en retour de l'argent, pour pouvoir aller payer un mécanicien puis acheter des moteurs hors bord. On réalise que finalement, l'être qui vit de manière très simple peut très bien s'organiser et il n'est pas malheureux tant qu'il n'a pas de comparaison à faire. Et
bien
le
sûr.
Grand malheur de la télévision, je dirais aussi de la radio autrefois, mais c'était moins évident. Mais avec la télévision, les gens dans des bourgades retirées avec des antennes qu'on leur fournit des fois là, pour capter par satellite et avec les plaques solaires, ils sont capables de s'installer où il n'y a même pas d'électricité pour capter des émissions de télévision qui proviennent de régions du monde qui les dépassent, mais complètement sur le plan économique. Nous, on change d'automobile à tous les 2-3 ans. Eux peuvent même pas imaginer s'en acheter une dans toute leur vie.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, c'est des gens qui deviennent malheureux. C'est des gens qui voudraient dominer ou pas dominer, mais qui voudraient avoir ce que l'on a pour être mieux. Parce qu'effectivement, on est peut-être mieux dans une camionnette tout-terrain que d'être encore sur le dos d'un éléphant pour se déplacer. Parce qu'on se dit... Quoique, je sais qu'il y a des endroits où on va remettre en service les chevaux.
Oui.
Parce que le cheval, lui, il est mieux qu'une automobile téléguidée. Il retournait le propriétaire du cheval à la maison automatiquement. Quand il avait passé une nuit d'enfer à boire puis complètement pacté, il s'endort dans sa calèche, dans sa carriole, et puis le cheval, il sait comment retourner à la maison puis retrouver son écurie. Alors, c'était peut-être aussi efficace que les automobiles téléguidées Google d'aujourd'hui, là. Parce que le cheval avait sa propre intelligence qui pouvait permettre l'alliance avec la nature est quelque chose qu'on a perdu. On est en train de détruire la nature, soi-disant pour l'améliorer. Alors, on réalise qu'on a des choses à comprendre dans notre conscience. Et on voudrait que les extraterrestres viennent nous donner des cadeaux, comme on a fait avec les Indiens. On leur donnait des petits bouts de miroir, là. On cassait un miroir en plusieurs petits morceaux. Puis l'Indien qui se voyait, l'Amérindien qui se voyait dans un miroir, c'était magique. Pour lui, c'était comme une télévision pour nous, là. Alors, tu vois, le congrès UFO 501 va nous amener à faire des prises de conscience à un autre niveau que l'ufologie qui cherche les tauliboulons, la chasse au trésor, comme pour les Boy Scouts, là, on met des indices ici et là. Il y a eu des traces, une soucoupe volante atterrie là. Il y a des gens qui ont vu des boules de lumière. C'est passé sur le Mont Saint-Hilaire. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Les Indiens l'appelaient Wigwam Alensis, le Mont Saint-Hilaire. Ça voulait dire la maison de ceux qui viennent du ciel, Wigwam. Alors, on voit que le phénomène extraterrestre qui est d'une intelligence supérieure à nous, utilise peut-être la technique qu'on utilise, nous, en laboratoire. Quand on veut faire une expérience ou tester un produit sur des humains, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'on fait une expérience en double aveugle.
Oui, c'est-à-dire?
Qu'est-ce que ça veut dire, double aveugle? Ça veut pas dire qu'on se met un bandeau sur les yeux, tout le monde, là. Ça veut dire, prenons l'exemple d'une pilule qu'on veut expérimenter sur des gens qui souffrent d'une certaine maladie ou d'un certain malaise.
Mm-hmm.
Alors, on va voir la pilule bleue, la pilule rouge, la pilule blanche. Alors, on dit au patient qui s'est prêté au jeu en disant, vous êtes un cobaye, là, on expérimente avec vous. Alors, dans les trois pilules, il y a deux pilules placebo.
Ah oui.
Donc, qui sont faites avec de la farine et du sucre. Et une pilule qui est le nouveau produit pour vous guérir. En double aveugle, ça veut dire que celui qui va prendre la pilule, l'absorber, ne sait pas laquelle est la vraie pilule et les deux autres pilules qui sont des placebos. Et double aveugle, donc lui, le patient, est aveugle, il ne sait pas. Il n'a pas la connaissance de laquelle est la pilule placebo et laquelle est la bonne. On se comprend? Et celui qui va lui proposer les trois pilules non plus ne le sait pas.
Oui. Ah oui, d'accord. Même lui ne sait pas.
Alors, lui, ne le sachant pas, il ne peut pas influencer de la façon dont il dispose des pilules, de la façon dont il insiste pour que le patient prenne la bleue plutôt que la rouge ou plutôt que la blanche. Il est, lui aussi, aveugle. Alors, on appelle ça des tests en double aveugle. Mais tu vas voir le parallèle que je veux faire avec le phénomène extraterrestre et puis cette technique très connue en laboratoire, le double aveugle, parce que, évidemment, l'opérateur et le cobaye, qui sont tous les deux sans savoir quelles sont les bonnes et les moins bonnes pilules.
Oui.
Il y a quand même les autorités derrière la vitre qui regardent procéder, puis eux savent que c'est, mettons, la bleue.
Donc, bien
la
sûr, bleue, oui.
Ouais, mais celui qui l'a donné, lui, il ne savait pas laquelle il donnait. Les extraterrestres, est-ce qu'ils ne joueraient pas le même petit jeu avec nous, les humains?
Ah,
double aveugle.
Tu peux croire ça, toi aussi? Ouais.
Ben, tiens. Ouais. Nous, la personne qui est témoin, la personne qui est amenée à bord d'un OVNI, qu'on appelle un contacté, la personne qui reçoit soit une mission, soit qui est programmée, à partir de là, là, il est parti sur une idée, il est parti sur une manière de faire. Tu as reçu Jean Cazot la semaine dernière.
Oui.
Et j'ai bien écouté son entrevue. Il nous a parlé d'un seul cas.
Ouais.
Un seul cas, celui de Mike.
Mm-hmm.
Michel, là, et que Mike a eu une expérience qui l'a traumatisé, qui l'a perturbé, qui l'a dérangé. Puis Jean Cazot, à la fin de l'entrevue, il te dit, j'ai remarqué, la plupart des cas que j'ai étudiés de gens qui ont été mis en rapport réellement avec le phénomène extraterrestre, même s'ils n'ont pas de photographie, c'est que tout ce qu'on pourrait appeler les à côté, les éléments collatéraux,
ouais,
nous amènent à comprendre que le type a vraiment vécu un traumatisme. Sa vie a changé à partir de cette observation-là. Alors, ça, on peut dire qu'on peut le croire. C'est aveuglément, comme tiens, on parle d'aveugle. On va le croire aveuglément parce que ses propos, son comportement, c'est trop cohérent avec le fait d'avoir subi un choc.
Mm.
Et Jean Cazot terminait l'entrevue avec toi en disant, il faut que je t'avoue une chose, Bob, j'ai étudié beaucoup de cas de contactés. Quand je dis beaucoup, c'est plusieurs. Et j'ai remarqué que ce sont des gens qui ont tous des caractères de bœufs.
Oui.
Tu te souviens?
Oui.
Moi, j'ai rencontré des contactés qui s'appellent Jean-Miguel de chez vous en France. Il nous fait le portrait robot de l'extraterrestre qu'il a rencontré. Il avait une grosse face ronde avec des cheveux coupés en brosse. Et Jean-Miguel avait une grosse face ronde,
ouais,
avec des cheveux coupés en brosse.
Ouais.
J'ai rencontré Claude Vorillon, celui qui se dit avoir été contacté par des extraterrestres. Comment dépeignait-il ces extraterrestres qu'il avait rencontrés? De grosses tignasses noires, de cheveux noirs bouclés sur la tête. Et Claude Vorillon, qu'on appelle Raël, Claude Vorillon était comment à l'époque? Ben, il était avec une grosse tignasse de cheveux noirs bouclés sur la tête.
Donc ce serait quoi? Ce serait une projection de notre inconscient collectif?
Je sais pas. Tout simplement, je soulève le fait que on voit l'autre comme on est soi-même.
Parce que j'ai reçu la semaine dernière Aimé Agnel qui évoquait justement Jung. On a fait une émission sur Jung et Jung, ouais, pensait que les ovnis seraient peut-être une vision
un mythe, parce qu'il a intitulé un de ses écrits,
une projection collective, une projection collective du soi. Voilà ce qu'il disait exactement, Jung.
Collective quand, ouais, l'expérience est collective, et individuelle quand, ouais, l'expérience est individuelle.
Oui, mais je crois que quand il disait collectif, c'est que pour tout le monde, ce serait pareil. C'est-à-dire que quand il disait collectif, c'est pas une vision collective à plusieurs. C'est-à-dire que pour lui, les ovnis, c'était ça. C'est-à-dire que quelle que soit la personne qui les voyait, c'était de toute façon obligatoirement une projection du soi. Donc ça pourrait être le cas pour Raël, pour les autres qui finalement voient leur pendant dans ces ovnis.
Oui. Mais là, c'est personnel.
C'est
collectivement personnel.
Si ouais, c'est
veut.
Ça. Ouais, ouais.
Oui, c'est ça. C'est que chacun, finalement, il met du sien dans l'observation.
Bien
et
sûr.
L'observation, est-ce qu'elle est objective ou elle est subjective, finalement?
Ah, ouais.
Est-ce que on voit bien que ce que l'on veut bien voir?
Ouais.
Et quand c'est trop différent de soi, ben on le rejette. Tu te souviens de Le Petit Prince de Saint-Exupéry?
Bien sûr.
Au début, il raconte l'événement d'un astronome qui était du Moyen-Orient, qui avait un chapeau pointu, qui avait comme une robe sur le dos. Tu sais, c'était quelqu'un qui d'une autre culture. Il est,
ouais,
allé dans un congrès international d'astronomie.
Ouais.
Il est allé parler de la découverte qu'il avait faite. Et les gens, simplement, à le regarder, n'acceptaient pas le vêtement qu'il portait. Et immédiatement, bon, ben, ils l'ont rejeté. Alors, l'année suivante, il est retourné à un congrès d'astronomes internationaux. Et en se coiffant les cheveux à l'occidentale, avec veston, cravate,
ouais,
bien mis.
Ouais.
Et là, tout le monde l'a écouté avec respect et en disant, mais c'est formidable, il est extraordinaire. C'était le même personnage.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
On a eu sur Internet un débat un jour. Il y avait une soi-disant princesse du Japon qui était une descendante d'Hirohito,
oh,
et qui avait dit qu'elle avait eu un contact avec des extraterrestres qui l'avaient prévenu de conflits majeurs sur la Terre, et qu'entre autres, il fallait aussi penser à l'écologie et arrêter de boire dans des canettes d'aluminium. Tu sais, des bouteilles
de
Coca-Cola, là.
Mmh.
C'est très nocif pour la santé, l'aluminium.
Mmh.
Alors moi, j'ai vu sur Internet des gens qui ont critiqué le fait que cette dame-là, c'était une faussaire, parce qu'elle ne pouvait pas être la descendante d'Hirohito. Ben là, l'important, est-ce que c'était de savoir si elle était vraiment la cousine, la descendante, la petite nièce, ou bien non, c'était d'écouter le message qu'elle transporte. Vous jouez au soccer en France, nous, on joue au hockey ici, puis on le sait. Le foot, oui, vous appelez ça le foot.
Ouais, c'est ça.
Bon, oui. Bon, alors, y a deux méthodes pour bien jouer. C'est soit de réussir à avoir le contrôle du ballon, de prendre possession du ballon, de faire la passe à la bonne distance, à la bonne vitesse, et contrôler le ballon jusqu'à aller scorer dans le but adverse.
Oui, bien sûr.
Ou alors, c'est de ne pas s'occuper du ballon et de frapper l'adversaire de façon à blesser les meilleurs joueurs de l'équipe adverse pour qu'après, on puisse avoir le contrôle du ballon.
Ouais,
c'est ça. Alors, avec Machiavel, la fin justifie les moyens. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bob?
Pourquoi pas?
Oh là! Alors, tu dirais, si on a à subir, nous, l'humanité, des souffrances assez terribles, peut-être une troisième guerre mondiale, amener un peu de sagesse en se disant, la fin justifierait les moyens, parce qu'après, vous aurez compris, puis j'espère que vous aurez fini, il n'y en aura plus jamais de guerre.
Alors, beaucoup disent que du mal en sort toujours du bien, malheureusement, et on l'a vu, l'histoire a démontré qu'à chaque fois qu'une guerre était intervenue, Richard, on avait reconstruit la société. Alors, le problème, c'est que cette société, quand elle est reconstruite plutôt avec de bonnes intentions dans les 10-15 premières années, puis très très vite, on reprend malheureusement les bonnes vieilles habitudes qui nous amènent inévitablement à une nouvelle guerre. Tu vois?
Ouais. Ben, c'est ça, la noce close, mon ami, c'est ça. C'est qu'on répète toujours les erreurs du passé.
C'est exactement ça. Donc, c'est ça le drame.
Ben, Machiavel disait à propos de la guerre, une guerre est juste quand elle est nécessaire.
Oui.
Ben, tu sais, qui détermine qu'elle est nécessaire?
Mais voilà. Voilà. À quel moment on considère que la guerre est nécessaire? Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Nous, l'État français est en guerre avec l'État islamique, avec Daesh, etc. On a eu des attentats sur notre sol. Il y en aura de plus en plus, c'est évident. On est face à une pieuvre qui a du mal à être... on a du mal à trouver, on a du mal à savoir qui est le bras armé de cette pieuvre, mais parce que ce sont des groupuscules ici ou là, mais on est en guerre. Donc après, est-ce que cette guerre, elle est nécessaire pour que nous vivions tous en paix? Ça, c'est encore difficile. En tout cas, de l'autre côté, certains l'ont décidé ainsi.
Albert Einstein disait, je ne sais pas avec quelles armes évoluées très modernes se fera la troisième guerre mondiale. Il dit, je sais que la quatrième se fera avec des lance-pierres, des flèches et des roches.
Ouais, ça veut dire qu'on risque de se bousiller tous et de revenir à l'âge de pierre, quoi.
Ça fait bien peur.
Ben
alors, c'est assez terrible. Si on continue dans cette piste de Machiavel, puisque c'était l'objectif de ma rencontre avec toi aujourd'hui, de parler de Machiavel et de la façon de gouverner, et on voit que les gouvernants du monde semblent être tous allés passer un stage à l'Institut M, l'Institut de Machiavel, il nous dit que gouverner, c'est d'abord faire croire. Être craint est plus durable qu'être aimé. On n'a jamais réussi à tuer son successeur. C'est assez évident, hein? Alors, j'en dis une qui est un peu plus longue. On l'écoute, c'est Machiavel dans ses livres. Tu sais qu'il a écrit un livre important qui s'appelle Le Prince. Il était dédié vraiment à Laurent II de Médicis en Italie. Machiavel, il savait comment jouer pour être toujours accepté des uns et des autres. Et c'était un rusé numéro un. Et c'est un peu l'art de nos politiciens. Ils promettent des choses avant l'élection. Ils sont gentils. Ils tendent la main au peuple. Ils serrent des mains. Ils sont proches du peuple. Ils sont habillés, décontractés. Et après, pouf, le vêtement sombre avec la cravate. Et puis, c'est ça. On n'a plus à parler à personne. Là, c'est ça. Alors, regarde bien. Elle nous dit, un prince, s'il est sage, doit savoir se conduire en tout temps et en toute matière, de sorte que ses sujets aient besoin de lui. Ils seront ainsi mieux disposés à le servir avec zèle et fidélité. Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'oser y penser.
Ouais, d'accord.
Le Machiavel est machiavélique.
Ben oui, ça c'est sûr.
Ça vient de lui, l'expression.
Ben oui, bien sûr.
Alors, aujourd'hui, en ufologie, on a des gens très compétents qui ont des compétences reconnues, professeurs à l'université comme Michael Sala ou Alfred Dambremont-Weber, qui est un Canadien, lui, qui est considéré comme le fondateur même de la discipline qu'on appelle l'exo.
Ouais.
Exopolitique. Donc, j'ai pris une petite gorgée. Alors oui, l'exopolitique, c'est un peu la façon de gérer la politique avec exo, qui veut dire extérieur à la planète Terre.
D'accord.
Le premier qui a vraiment lancé le terme exopolitique, je l'avais reçu sur mon émission à l'époque, il s'agit de le docteur Leo Sprinkle, psychiatre de l'université de Wyoming. Et parce que Wyoming, c'est là qu'il y a la fameuse montagne, le Devil's Tower, qui a servi là, au film Rencontre du troisième type. Alors, ce serait les lois acceptables par des extraterrestres et par des humains pour établir un protocole de bonne entente entre des peuples d'outre-espace et nous, les humains.
Ouais.
En comprenant au départ qu'il y a un décalage psychologique, mais un fossé énorme. On a de la misère, nous, sur Terre, à nous comprendre entre humains qui avons à vivre les mêmes choses. Puis même Geneviève rajoute, les gars ne comprennent pas les filles. Les femmes, les hommes ont même des fois de la misère à s'entendre de la même race, tu sais, je veux dire. La psychologie, la psyché, l'âme. Et Leo Sprinkle avait publié un livre qui s'appelle Les capteurs d'âme. Parce que ces êtres-là qui observent l'humain, ils ne l'observent pas seulement sur le côté extérieur, la mode, les vêtements, puis tout ça. Ils l'observent aussi sur le côté intérieur, la psychologie et l'âme. Et on se dit, dans les traditions anciennes, on les appelait des démons, des bons anges, des mauvais anges, qui étaient là pour nous tenter. Puis ils disaient, attention, ne vendez pas votre âme au diable, parce que c'est les mauvais anges qui pourraient s'approprier de vous après votre mort. On réalise qu'on parle d'extraterrestres aujourd'hui, à l'ère des astronautes, des cosmonautes. Autrefois, on parlait peut-être de la même réalité qui se présentait à nous, et qu'on ne comprenait pas autrement que par des êtres supérieurs, spirituels, avec des pouvoirs psychiques, psioniques. Alors, on commence à voir que, encore une fois, l'anacyclose. On tourne, et on reviendra au même point de départ. On a rejeté la religion, on a rejeté cette démarche spirituelle, on se fait rentrer dedans par des musulmans qui sont extrémistes, qui sont extrêmement religieux à leur façon, mais c'est une forme d'imposer encore un retour de la religion qui nous donne des lois, des préceptes qui ne sont pas tout à fait raisonnables dans beaucoup de cas. Mais on se dit, ah, c'est comme ça, le monde de l'esprit n'est pas le monde de la matière. Nous, dans le temps, les chrétiens, on se faisait dire de ne pas manger de viande le vendredi. On mangeait du poisson
bien
le vendredi.
Sûr. Ouais, ouais.
Et là, aujourd'hui, on entend dire par les écologistes qu'il faut manger du poisson au moins une journée par semaine, et puis là, ils ont choisi le lundi. Au lieu de parler du vendredi,
bien
parce
sûr.
Que ça serait un clin d'œil à la religion d'autrefois.
Ouais.
On voit que, bon, je pense que les musulmans, ils fêtent le vendredi.
Ouais. Peut-être, oui, peut-être. Bon, je ne suis pas très au fait de ces choses-là.
Les juifs fêtent le...
C'est pareil, c'est le vendredi soir, je crois, au tomber du, à la nuit, je crois, à la nuit tombée, hein, c'est ça.
Oui, du vendredi au samedi soir.
Ouais,
donc
c'est Shabbat.
C'est le samedi. Ouais. Le samedi, c'est le Shabbat.
Oui, c'est ça.
C'est ça?
Ouais, ouais.
Et les chrétiens, c'est le dimanche.
Ouais.
Alors, on n'est quand même pas capable de s'entendre sur... on prend-tu une journée, puis on va dire, ça, c'est la journée de repos, pour qu'une journée par semaine, tout le monde soit en repos. Là, c'est rendu ici que les magasins, les centres d'achat sont ouverts tous les jours de la semaine, puis ça ferme tous les soirs à 11h, 23h. Alors, il faut dire que qui travaille? Tout le monde travaille.
Ouais.
Alors qu'on était censé entrer dans l'ère du loisir.
Ouais, ouais.
Ah oui. Ouais,
mais ce qui est assez marrant, Richard, c'est qu'on est quand même sur trois religions monothéistes, donc un seul Dieu. Et malgré ce Dieu commun, qui est le seul, l'unique, d'après ces religions, elles n'arrivent pas elles-mêmes à se mettre d'accord. C'est ça qui est assez incroyable.
Puis quand on les regarde, les trois dieux, on va commencer par celui des Juifs, qui est le plus ancien. Alors, c'était Yahvé, Yod, He, Vav, He. Ouais. J'en ai parlé la semaine dernière, le mois dernier à ton émission, ouais. En disant ces quatre lettres. Hein. Yod, qui est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, qui ressemble à une apostrophe. Et c'est devenu d'ailleurs la base de le nom de Yoda dans Star Wars, la guerre des étoiles. Yod, Yoda, ouais. Qui est le plus petit personnage, tout petit, mais extrêmement puissant. Bon, Yod, He, Vav, He. Ben, je faisais le parallèle avec la NASA. N-A-S-A. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un système. Le Yahvé, ça n'a jamais été un individu, un gars avec une barbe et puis des éclairs dans les mains comme Zeus là, ou Jupiter. Alors, OK, pour les Juifs, c'est un système Yod, He, Vav, He. Et toute la langue hébraïque, qu'on appelle la Kabbale, nous permet d'entrer dans la connaissance cachée du sens des mots. Parce que chaque mot porte des lettres, et les lettres sont à la fois des chiffres. Et de cette façon-là, on comprend à un autre niveau tout le message de l'Ancien Testament, la Torah, qui pourrait tout à fait s'écrire par chiffres. Et aujourd'hui, nos ordinateurs fonctionnent tous par chiffres. Alors, c'est un système. C'est un système. C'est pas un individu. C'est un système. Et là, après, ben, tu as eu le christianisme, quand le Christ, le Jésus, est arrivé en disant « Je ne suis pas venu défaire la loi de Yahvé. » Je suis venu la parfaire. Parce que, souviens-toi que la loi de Yahvé a été écrite dans les tables de la loi avec Moïse, qui était monté sur le mont
Sinaï.
Horeb, et qui est allé recevoir les 10 commandements. Bon, d'abord, Moïse est redescendu. Il avait les cheveux avaient blanchi, comme s'il avait fait un voyage dans le temps. Il était revenu en bas et il a vu le peuple qui se vautrait, d'ailleurs, avec le veau d'or.
Oui, bien sûr.
Et il a pris, il a fait une scène de colère, comme dirait Jean Cazot, ils sont tous avec des mauvais caractères, c'est qu'ils sont décontactés. Bon, ben, il a pris des tables de la loi, il les a lancées et ça a fait éventrer, et la terre s'est entrouverte et les méchants étaient projetés à l'intérieur des entrailles de la terre, dit-on. Et là, il est remonté parce que là, ils avaient perdu là, ces fameuses tables de la loi. Alors, figure-toi que le gars qui était mandaté d'aller transmettre la loi de Dieu, ou de Yahvé, ou de la NASA, au peuple en bas, il les a cassés parce qu'il a fait une sainte colère. Bon, alors il remonte en haut, puis là, il arrive en haut, puis il tape à la porte, là. Yahvé, peux-tu m'en faire une autre copie? Je les ai détruites. T'imagines la scène, là, le Moïse qui arrive en haut, tout penaud. Je me suis fâché, puis je les ai détruites. Peux-tu m'en faire une autre copie, s'il vous plaît? Je pense que le Yahvé, en haut, il a dû dire, wow, minute, là. Ce qu'on t'a donné pour permettre au peuple de devenir compétent, puis bien, en suivant les lois qu'on lui donnait, il n'a pas compris parce qu'il est trop primitif. Écoute, on ne te refera pas les mêmes lois. On va t'en faire une nouvelle version. Alors, le Moïse redescend avec les tables de la loi, les deux tables, avec 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc., etc. D'ailleurs, il est bien marqué, œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'œuvre de chair, c'est-à-dire la procréation d'un enfant, ne désirera qu'en mariage seulement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire l'amour avec du monde, tant que ce n'est pas pour faire une œuvre de chair. Quand tu veux faire un enfant, quand tu es pour avoir un enfant, qu'en mariage seulement. C'est-à-dire qu'au moment où il est pour y avoir une œuvre de chair, il faut se marier pour que l'enfant naisse dans un couple. Alors là, donc, le fameux Moïse est allé recevoir une deuxième édition, si tu veux, qui aurait pu être la première édition, c'est-à-dire celle qui s'adresse à un peuple primitif, ceux qui adoraient encore le veau d'or. Mais quand le Jésus est venu quelques 2000 ans plus tard, il est arrivé, lui, avec « Je ne suis pas venu défaire la loi de Moïse, mais la parfaire. » Autrement dit, le Jésus était peut-être revenu, lui, avec la première édition des tables de la loi, celle que Moïse avait détruite, et qui disait tout simplement « Aime ton Dieu par-dessus tout, aime ton prochain comme toi-même.
»
Aime ton prochain, pas comme tu t'aimes toi-même, mais comme si ton prochain était toi-même.
Oui.
Autrement dit, fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse, et évite de faire à l'autre ce que tu voudrais qu'on ne te fasse pas. Et ça, ça aurait été peut-être la fameuse première édition des commandements de Dieu que le Jésus est venu présenter 2000 ans plus tard. Puis là, il est arrivé à l'an. Tu sais, je veux dire, pour la religion de l'islam. Tu sais, Jésus-Christ, depuis 2000 ans, personne n'entend. Puis l'autre islam mente. Ben, à un moment donné, on va saisir peut-être que Allah, A-L-L-A. On le prend là, juste dans le sens où H-A-L-L-A-H. Tu vois que ça se lit dans les deux sens?
Bien sûr.
Est-ce que c'est ça qu'on appelle un palindrome?
Oui, c'est ça, complètement.
Exactement. Alors, ça veut donc dire que c'est de l'alpha à l'oméga, et de l'oméga, on revient à l'alpha. C'est encore une fois le même message qui est transmis à une époque différente et que les gens ne saisissent toujours pas que finalement, il y a, pour des extraterrestres, pas des apparences différentes, il y a une réalité spirituelle qui est au-delà de toutes les limites qu'on donne dans les livres. D'ailleurs, le Jésus disait, la lettre tue, l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie, pas la lettre. Et quand on voit les gens qui se battent pour des textes, que ce soit la Torah ou la Bible, les évangiles ou le Coran, les gens se battent pour des écrits. Ils n'ont tout simplement pas compris l'essentiel qui leur a été transmis aux trois. Et dans les cas des trois, on leur a laissé faire comprendre que prenez une évolution dans votre esprit, lâchez les textes, passez à une valeur spirituelle et vous allez saisir l'importance de ces messages qui viennent, quoi, des extraterrestres, qui viendraient d'un système qu'on pourrait appeler une supramatrice. Moi, je vous recommande d'aller voir sur Internet, sur YouTube. Tout le monde peut aller le voir en écrivant simplement dans la bande de YouTube. C'est parce que ce que je vais dire maintenant, Bob, c'est un teaser pour le congrès UFO 500.
Ouais.
Et mieux que ça, on entend Bob dans ce vidéo-là.
Ah,
on t'attrape, là. C'est des extraits d'entretien que j'ai donné avec Bob et en conférence ailleurs et avec quelques invités aussi que j'ai reçus, mais on entend toi-même, Bob, aussi. Alors, ça s'écrit OVNI,
oui.
Espace, les perluettes, là, le fameux E. Le E, là, c'est oui, le signe du E, là, qui est comme un peu une clé de sol. Là,
oui, d'accord.
Bon, alors, OVNI, espace, le et,
ouais.
Les, après le et, il y a un espace, les, espace extraterrestre au pluriel, évidemment, espace aujourd'hui.
D'accord.
Alors, je suis certain que Mathieu est en train de nous trouver ça, là. Alors, OVNI et les extraterrestres aujourd'hui. Et c'est un document qui dure une douzaine de minutes et qui prépare tout le public au congrès UFO 501.
D'accord.
C'est un montage avec des images fantastiques, fait par un monteur professionnel avec des équipements professionnels. La qualité est de très haute gamme, là, c'est de la haute définition. Et on entend Bob, on entend Richard Glenn, on entend des intervenants qui nous préparent à bien saisir la démarche qu'on va suivre au congrès UFO 501. C'est pas seulement des tauliboulons dont on va parler.
Ouais.
On va avoir des témoignages. Le dimanche en particulier, on a des témoignages. Yona Vanet, qui dirige le Garpin, qui a travaillé fort pour monter aussi une chronologie des bons invités pour le congrès UFO 501, qui va être avec nous. Moi, je te recommande au plus haut point, Bob, de recevoir Yona Vanet du groupe Garpin. Elle a frappé à ta porte il y a déjà un an. Vous aviez tenté de la rejoindre, puis là, ça coïncidait pas dans son temps horaire. Mais
d'accord.
Maintenant, elle est disponible, justement, qu'elle va participer énormément au congrès UFO 501.
D'accord.
Ça fait bon temps de la recevoir.
Bien sûr.
Et elle a préparé des dossiers. Je pense qu'ils ont maintenant une dizaine de livres.
Ah oui?
De publier en l'espace de 3 ans. Là. Ils opèrent très haute vitesse et très, très compétence. De haute compétence. Alors, OVNI et les extraterrestres aujourd'hui, qui durent une douzaine de minutes, c'est pour justement faire saisir aux gens que l'ufologie, il y a tout un pan de l'ufologie qui est nié par les ufologues du monde entier.
On va peut-être essayer d'en mettre un extrait avec Mathieu, parce que Mathieu, là, on écoute 2 secondes peut-être, et puis on...
Oui, oui, d'accord.
Okay.
Oui.
Là, c'est le tout début de la vidéo. Hein.
D'accord.
Parfait.
Eh bien oui, ça évolue, la Terre évolue, le monde évolue, les choses vont changer envers et contre tous. C'est sûr qu'il y a toujours Le grand silence des autorités, qu'elles soient militaires ou politiques à travers le monde, face au phénomène extraterrestre, ça cache quelque chose, hein? Ça cache quelque chose de très gros. Les contactés, les vrais, savent des choses. Ils savent.
Ne faites pas comme les autres. Ne restez plus dans l'ignorance.
Maintenant, la nouvelle Bible, c'est Star Wars, la guerre des étoiles.
Ouais.
Et avant d'entrer sur le câble Internet,
ouais,
j'ai créé ce qu'on a appelé l'école Jedi.
Ouais.
Et Jedi, c'est le nom qu'on donne à ces personnages dans Star Wars, la guerre des étoiles. En passant, vous lui demanderez pourquoi est-ce qu'en français, ça s'appelle la guerre des étoiles,
ouais,
et en anglais, c'est Star, au singulier,
ouais,
Wars,
ouais, ouais,
au pluriel.
Ouais. Ouais.
Qui est singulier devient pluriel,
bien sûr,
pluriel devient singulier.
C'est bon,
on est français, francophone ou anglophone.
Ouais. Attends, je te pose la question tout de suite.
Oui.
OK, Michel. Est-ce que, quand je dis ceux qu'on croit être des extraterrestres sont des êtres qui ont survécu à une destruction de monde, du monde terrestre, il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années, et qui se sont rapatriés dans des bases souterraines à l'intérieur de la Terre à différents endroits. Ils ont créé des corridors qu'on appelle Agartha, il y a une capitale qui s'appelle Shambhala, et derrière tout ça, il y a un gouvernement, et au-delà du gouvernement, il y a un chef. Le gouvernement Shambhala, et il y a un chef qu'on appellera le maître du monde.
Voilà, donc ça c'était un extrait de cette vidéo dont tu nous as parlé, Richard.
Oui, la qualité vidéo est excellente.
Hein. Ah ouais, ouais, non, c'est du bon travail. Donc, en tout cas, ça donne envie de se retrouver autour de tout ce petit monde-là, lors du congrès UFO.
Et tu t'es entendu toi-même.
Oui, bien sûr, je me suis entendu.
Et il y a un crescendo dans ce montage-là qui amène le public à ce dont on va se parler au congrès UFO 501 sur la toute fin de ce vidéo-là. Et il y a un vidéo qui est en montage présentement qui va être disponible d'ici 15 jours,
mm-hmm,
qui va montrer les highlights du congrès de l'année dernière, UFO 401, les moments forts.
Ouais.
Et on aura aussi un autre vidéo de 2 minutes à peu près pour montrer, annoncer tous les invités qu'on aura pour le congrès UFO 501, évidemment avec la présence de Bob et Mathieu. Mathieu vient parce que nous allons enregistrer ensemble une émission pour BTLV le vendredi qui précède le congrès. Là.
Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai besoin, tu sais, de mon Mathieu. Moi, s'il n'est pas là, je suis un peu perdu. Hein.
Oh. Ah, c'est beau, hein, Mathieu,
ah, oui,
de savoir qu'on est indispensable. Hein, extraordinaire.
Ah, ça, oui. On lui dit pas trop quand même, parce qu'après, il va me demander plus d'argent, mon Golan.
Oh, ouais, ouais, Mathieu, gêne-toi pas, Mathieu. Mais là, je sais que Mathieu, il vient par ce que c'est toi, Bob, qui l'amène.
Oui, bien sûr.
Fait, là.
Ouais,
c'est ouais, bien. Ah ben écoute, c'est encore un beau rendez-vous qui se prépare. Moi, je pense que notre heure achève déjà, Bob.
Oui, c'est ça, on arrive au terme de cet entretien. En tout cas, mille fois merci encore une fois, Richard, d'être venu pour nous parler de l'anacyclose. On voit bien que ce phénomène OVNI et ce dossier UFO, il est encore pas réglé, qu'on est en droit de se poser beaucoup, beaucoup de questions. C'est ce que je dis souvent, moi, ce dossier, en tout cas, il me fascine, il m'excite. Et peut-être que de mon vivant, je n'aurai pas l'occasion d'être face à ce phénomène, mais dans tous les cas, force est de constater qu'il mobilise beaucoup de gens, d'ailleurs, comme on le verra lors de ce congrès UFO 500. En tout cas, merci mille fois, mon Richard.
Ben, écoute, Paul Hélieu, qui était le ministre de la Défense du Canada, vient de faire une déclaration il y a 2 jours à peine,
ouais,
pour prévenir les gens qu'il ne reste plus des années avant que les choses soient
révélées.
De non-retour, c'est-à-dire où alors on se détruit et puis la fin justifie les moyens d'après l'autre.
Ouais.
Mais d'un autre côté, ça pourrait être aussi la révélation. Et si on pense à une révélation du phénomène extraterrestre, il faut pas imaginer qu'ils sont négatifs et dangereux pour détruire l'humanité. Ça fait, ouais, longtemps qu'ils auraient pu le faire.
C'est sûr.
Alors peut-être qu'ils attendent, sans être obligés d'intervenir, ils puissent au moins venir nous mettre sur une piste positive, et si la fin justifie les moyens pour eux aussi. Je ne sais pas si c'est dans leur règle de penser de cette façon-là. C'est justement ça l'affaire.
Eh oui.
Se mettre à la place des extraterrestres.
C'est exactement.
Et c'est là qu'on aura un pas d'avance quand on comprendra comment eux pensent.
Merci Richard,
merci
d'être
Bob,
venu.
Merci à toute l'équipe et au revoir et au mois prochain.
Et à très bientôt, ciao.
Le mystère et l'inexpliqué sont ses terrains de jeu depuis 40 ans. Tous les mois, Richard Glenn est sur BTLV.